Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio, comme tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, place à un autre médecin que vous connaissez sûrement, le docteur Alain Ducardonnet. Il vient de sortir un livre dans lequel lui, il vous propose de prendre rendez-vous avec vous, de devenir en quelque sorte votre propre médecin. Avec lui, on ne va pas vous parler de médicaments aujourd'hui, de maladies, mais de comment éviter d'en arriver là justement, grâce à 10 rendez-vous incontournables de prévention qu'on devrait tous caler dans nos agendas. Il est possible, vous allez voir, d'éviter ou de retarder au moins de nombreux problèmes médicaux. Bien sûr, il nous dira tout. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de la mucoviscidose. Ce dimanche, ce sera les virades de l'espoir. Et à cette occasion, nous ferons le point sur les formidables avancées qui profitent déjà aux patients. Mais nous parlerons aussi du futur et de ces nouveaux traitements qui pourraient bientôt révolutionner leur quotidien. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question d'infidélité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première, c'est la question de David.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors j'entends sans cesse parler du régime cétogène autour de moi, sur internet, enfin vraiment, vraiment partout. Ma question c'est en quoi ça consiste et est-ce que c'est vraiment miracle ?
Alors, pour répondre à votre question, David, de façon précise sur le régime cétogène, nous avons interrogé pour vous le docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste. On l'écoute.
Le régime cétogène est loin d'être un régime miracle. C'est une alimentation où l'on bannit pratiquement tous les sucres. Pas de féculents, pas de légumineuses, pas de fruits trop riches en sucre. Et on va également supprimer beaucoup de légumes qui sont considérés comme étant également trop riches en sucre. Au contraire, on va favoriser tout ce qui est gras. Alors pas forcément le mauvais gras, entre guillemets. Des produits comme l'avocat, la noix de coco, les oléagineux, les amandes, les huiles végétales. Donc le corps n'a plus son carburant. Il est obligé d'aller chercher ce qu'on lui donne, c'est-à-dire du gras. Ce gras, il va le transformer en corps cétonique dans le foie, ainsi qu'à partir des réserves de graisse de l'organisme. Et ces corps cétoniques vont servir d'alimentation, de carburant à l'organisme. Le régime cétogène permet de perdre assez rapidement pour plusieurs raisons. Parce qu'une fois qu'on fabrique les corps cétoniques, c'est-à-dire en 2 à 4 jours, eh bien on a l'appétit coupé. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'un régime extrêmement restrictif et qui risque à terme de faire reprendre aussi rapidement qu'on a perdu.
C'était donc le docteur Lacronière au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, elle est pour vous. Cette question, c'est celle d'Adèle. Elle a 37 ans. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'avais une question à vous poser. Mon bébé de 3 mois pleure beaucoup. J'ai l'impression qu'il a des coliques. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour améliorer les choses? Merci, bonne journée, au revoir.
Bon Jimmy, les coliques, les bébés, tout ça, c'est un grand sujet, mais un sujet que vous connaissez bien parce que vous n'êtes pas 3 enfants. Donc vous êtes peut-être passé par là pour, à titre personnel aussi. Hein, c'est affreux, il faut dire ce qui est les coliques.
Oui, c'est souvent déroutant pour les parents. Alors les coliques du nourrisson, c'est des bébés qui vont pleurer. Il y a une règle qui vaut ce qu'elle vaut. C'est 3 heures par jour, 3 jours dans la semaine, pendant au moins 3 semaines. Sauf qu'évidemment, si votre bébé pleure 1h30 par jour ou 2 heures, il peut rentrer
peut
aussi
ça,
dans ces critères. Surtout que c'est des bébés qui vont plutôt bien, en fait, indépendamment de ces pleurs, c'est-à-dire qu'ils grossissent correctement, ils mangent bien, mais ils vont pleurer et surtout, ils sont inconsolables. Et cet inconfort, cette inconsolation va parfois angoisser les parents. D'ailleurs, colique du nourrisson, ça vient du latin colicus, je suis sûr que vous le saviez, Mélanie.
Il faut toujours que vous sortiez votre...
Mais oui, mais ça veut dire qu'il souffre du côlon, sauf que nous n'avons aucune preuve que ces bébés, d'une part, aient mal, et deux, que la douleur proviennent du tube digestif, ce n'est qu'une supposition et peut-être qu'on est loin du compte.
C'est même pas ça. Alors Jimmy, en préparant cette émission, vous m'aviez dit justement que sur les coliques du nourrisson, vous aviez lu une étude passionnante récemment.
Oui, alors ils ont fait des IRM à des nouveau-nés qui étaient nés à terme entre le premier et le sixième jour. Pendant l'IRM, ils ont fait inhaler 3 odeurs, du chou pourri, de la banane et de l'eucalyptus. Ils ont suivi ces enfants pendant plusieurs semaines et interrogé les parents pour savoir si certains vont pleurer plus que d'autres. Eh bien, figurez-vous que les enfants qui pleurent le plus sont ceux qui ont été le plus sensibles lors de la respiration du chou pourri. Donc,
maintenant, nous, on pleurerait aussi si on nous met face à du chou pourri.
L'explication, elle est très importante parce que les zones qui se sont activées dans le cerveau, il y en a deux, elles en ont un peu barbare, c'est le cortex piriforme et l'insula. Sauf que ces zones, elles sont responsables du contrôle de la douleur et de l'autorégulation. Ce qui veut donc dire que les bébés qui pleurent vont pleurer plus facilement liés à un seuil de douleur qui est plus élevé ou plus bas. Et surtout, ils vont avoir du mal à s'auto-réguler et à se calmer, raison pour laquelle ils auront tendance à s'emballer et à pleurer de nombreuses heures. C'est cérébral et ça pourrait être expliqué par la suite que certains enfants pleurent plus que d'autres.
Alors, comme on ne va pas conseiller à Adèle d'aller faire respirer du chou pourri ou de l'eucalyptus à son bébé, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour soulager son petit ?
Tout d'abord, il faut dire aux parents, parfois on est excédé, il est 3h, 4h du matin, et on ne sait pas quoi faire, on n'en peut plus.
En tout cas, on ne le secoue pas, ça c'est
voilà.
sûr. Hein.
Et parfois, on peut avoir des pensées de se dire, mais tais-toi, calme-toi. Dans ces cas-là, vous mettez le bébé dans son lit.
Dans une autre pièce.
Dans une autre pièce, vous fermez la pièce, il va pleurer même pendant une demi-heure, peu importe. Vous allez remettre les compteurs à zéro et pouvoir vous en occuper par la suite. On n'hésite pas à laisser un bébé si on n'en peut plus. Ça évitera certains drames parce que ça ne concerne pas que les parents. Qui ont des problèmes psychologiques, on peut tous à un moment péter un câble et se dire, je me mets à côté.
Ça sent le vécu de papa, ça.
Bah oui, c'est vrai, non, mais il faut souvent, et surtout quand on est seul, c'est encore plus difficile. Donc, il ne faut pas hésiter de se relayer. Il faut porter les bébés. On s'est rendu compte que les bébés qui étaient portés avaient moins de coliques, notamment en Afrique, lorsqu'ils sont mis dans le dos des mamans. Mm-hmm. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter à les masser. Ils ont mal au ventre, on pense qu'ils ont mal au ventre. Ouais. Donc, à ce moment-là, on peut calmer les douleurs. Et puis, il y a des petites tisanes. Le fenouil peut calmer les douleurs des enfants. Vous pouvez acheter ça soit en pharmacie, soit des petites graines que vous allez donner en forme de tisane. Et puis, le seul traitement, c'est de patienter parce que ça s'améliore spontanément vers l'âge de 3-4 mois.
J'allais dire à 8 ans, ils n'ont plus de colique. Non,
ça s'arrange. Il y a d'autres problèmes. Petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Je crois
bien.
Que vous savez ça, Mélanie.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Adèle, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Alain Ducardonnet, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Louis.
Vous êtes cardiologue médecin du sport, on vous connaît aussi puisque vous êtes consultant santé pour BFM TV. Mais si on vous a invité aujourd'hui, c'est pas pour ça. C'est parce que vous avez sorti un livre qui s'appelle « Prenez rendez-vous avec vous », publié au Cherche Midi. Alors vous, en cette période un peu inquiétante, il faut le dire, hein, on vit tous avec ce virus au-dessus de la tête qui nous guette, vous nous proposez en fait de prendre du temps pour nous. C'est vraiment le bon moment, là, vous croyez ?
C'était le bon moment, les gens ont pris conscience. Au moment où il y a eu ce confinement, en fin de compte, chacun était livré à lui-même, livré à sa famille, livré à ses problèmes. Et il se disait, tout compte fait, si je suis en bonne santé, ça sera quand même plus facile pour attaquer le virus. Donc c'est vrai que ce livre, j'ai commencé il y a plus d'un an et demi. Donc c'est
oui,
pas,
vous
ne
l'avez pas écrit pendant le confinement parce que vous étiez forcé, obligé.
Non, ça allait très bien. Mais en fait, l'idée, c'est que, eh bien, on a plein de choses dans notre vie quotidienne, dans notre façon de vivre, qui peuvent nous préparer aux différents aléas de la vie.
Jimmy ?
Vous savez, quand on voit des patients en consultation, on leur dit « trouvez du temps pour vous-même, faites un peu de sport » et tout le monde nous répond, quelle que soit l'activité, « je n'ai pas le temps ». Est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse qu'on se donne tous ?
En fait, le titre vient de là, c'est ma pratique quotidienne, parce qu'à force d'entendre ça, je dis aux gens « écoutez, sortez-moi votre calepin ou sortez-moi votre smartphone ».
Ah, vous allez dans le sac à main, regardez dans l'agenda.
Absolument,
carrément.
Oui, ouais. Moi, j'ai très mes patientes, et mes patients aussi, et je leur ai dit « mais et là, vous n'avez rien de marqué ».
Là, il y a un trou.
Et là, j'ai dit « vous marquez moi ». Voilà, moi, et ça sera votre rendez-vous avec vous, et vous allez dire, voilà, c'est comme si c'était une première rencontre avec une jeune fille, vous ne pouvez pas l'annuler. Et puis progressivement, vous allez prendre l'habitude. C'est comme ça qu'en fait est venu le nom de ce titre, parce que c'est vrai, le titre, parce que c'est comme ça que je le vis en consultation.
Très bien. Alors pour illustrer votre démarche, dans votre livre, vous racontez une très jolie anecdote quand vous étiez médecin du Tour de France. La plus belle preuve, selon vous, des bienfaits de l'activité physique, notamment sur la santé, et que le tout médicament, finalement, ce n'est pas la panacée. De quoi avez-vous été témoin pendant le Tour de France ?
Alors ça a été pour moi un peu une révélation, parce que j'étais cardiologue, vous savez, on est plombier, électricien, donc voilà, ces choses se passent bien. Et puis sur le Tour de France, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Dominique Gard, qui s'appelle toujours Dominique Gard, qui est un coureur cycliste que les anciens connaissent. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il avait une pompe à insuline. Il était diabétique.
Ah oui, on peut être sportif de haut niveau.
On peut être sportif de haut niveau avec une pompe à insuline, il n'y avait pas de problème. C'était le début des pompes à insuline. Et surtout, ce qui m'impressionnait, quand ils arrivent sur le Tour de France, ils ont en gros 25 000, 30 000 km dans les jambes. Et il m'a dit, écoute, tu vois, je suis sur la position 1, la position 2, alors qu'habituellement, je suis sur la position 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'activité physique, tous les efforts qu'il avait faits, toutes les étapes qu'il avait faites, eh bien, avaient servi quasiment de traitement, avaient fait rentrer le sucre dans les cellules. Et c'était quasiment...
Il n'avait quasiment plus besoin de son insuline.
Il en avait besoin, bien sûr. Mais cette transformation uniquement liée à l'activité physique m'a absolument interpellé. C'est de là qu'est venu un petit peu mon attachement à ces modes de vie.
Jimmy.
Dans votre livre, pour prendre soin de sa santé, vous proposez 10 rendez-vous. Et le premier, c'est de se projeter. Il faudrait s'imaginer dans 10 ans.
Ne le faites pas, Jimmy, parce que vous allez pleurer.
Ça fait très mal. Oui.
Rendez-vous dans 10 ans.
Rendez-vous dans 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on s'imagine ?
On s'imagine, en fin de compte, quelle va être sa vie ? Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fin de compte, vous préférez profiter de tout ? Et puis après tout, ça m'est égal. ou vous dites, bah, tout compte fait, dans 10 ans, j'aimerais bien quand même être en pleine forme, j'aimerais bien ne pas avoir trop de problèmes, pas trop de maladies, j'ai des enfants, je ne voudrais pas m'en occuper, ouais, etc. Donc c'est important de se projeter dans son image physique et son image psychologique. Parce que je raconte aussi l'histoire d'un de mes très très bons amis, un collègue, qui en fait, lui, était diabétique, insulino-dépendant, et qui avait dit, moi, ça m'est égal, je mourrai plus jeune, mais je veux profiter de tout. Il est mort plus jeune, mais au moins, il l'assumait parfaitement. Donc voilà, c'est un choix qu'il faut faire par rapport aux années qui viennent.
Mais se projeter dans 10 ans, parfois, ça peut être un peu déprimant, parce que quand on est, je ne sais pas, fumeur depuis des années, que c'est très difficile d'arrêter, donc on sait très bien que dans 10 ans, ça ira pas mieux à cause du tabac. Ça peut franchement déprimer complètement. Hein.
Ça peut aussi motiver. Ça peut aussi motiver, parce que c'est une façon éventuellement de se dire, bon, si je continue à fumer comme ça, on m'a raconté qu'il m'arriverait peut-être plein de choses, qu'est-ce que je peux faire ? L'idée, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de dire, il faut faire ça. L'idée, c'est de prendre conscience, de se dire, voilà, je vais choisir ma vie. Et l'idée, c'est encore une fois d'être maître de son avenir.
Et justement, pour ceux qui seraient en bonne santé, parfois on se sent tout puissant, on oublie qu'on peut avoir la maladie. C'est peut-être aussi le moment, même quand tout va bien, de se faire un bilan et de se dire, tiens, voilà comment j'aimerais être dans quelques années.
C'est l'idée, en effet, c'est de faire une révision. C'est toujours 50 ans, c'est une révision des 50 ans.
Et quand 000, on est en bonne santé, c'est le meilleur moment, vous dites.
Oui, c'est le meilleur moment, parce qu'en fin de compte, on pense qu'on est en bonne santé. On dit, bon, j'ai peut-être pas forcément besoin de le faire. Souvent, il y a l'épouse ou le mari qui dit, écoute, tu devrais quand même, avec la vie que tu mènes, tu devrais quand même faire un bilan. Et comprenons-nous bien, le bilan, c'est faire un état des lieux. C'est faire un état des lieux de santé, physique, mais c'est aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur un état des lieux de la façon dont on vit. C'est-à-dire les modes de vie, en particulier concernant la nutrition, l'activité physique, le stress, le sommeil. Comment est-ce qu'on se situe dans sa vie de tous les jours par rapport à ça ? Parce que quand vous mettez en perspective votre état de santé, vous faites un bilan, on vous trouve une petite plaque d'athérome, donc un dépôt de cholestérol sur une artère qui va au cerveau à la carotide. Si vous avez un cholestérol normal, si vous avez un mode de vie normal, si vous faites de l'activité physique, cette plaque n'aura pas du tout la même valeur que si vous êtes diabétique, si vous fumez.
Très bien. Alain Ducardonnet, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Alain Ducardonnet. Vous êtes cardiologue, médecin du sport et l'auteur du livre « Prenez rendez-vous avec vous, votre santé vous dira merci », publié au Cherche Midi. Docteur Ducardonnet, ce que vous proposez donc, c'est au même titre finalement que l'on prend rendez-vous chez le médecin ou chez le coiffeur, de faire la même chose avec soi. Vous avez dit, vous prenez l'agenda et marquez « moi », »,« rendez-vous avec moi ». Et notamment, dans ces rendez-vous que vous proposez, vous en proposez 10 qui sont incontournables pour prendre soin de soi. Il y en a un qui consiste à finalement se retourner vers ses ancêtres et se demander quels sont les antécédents dans ma famille. C'est pas un peu plombant, ça aussi ?
Non, mais ce qui est surprenant, quand on pose la question bien souvent, les gens disent « oh non, c'est un truc dont on ne parlait pas du tout dans la famille. Oh là, fallait surtout pas en parler. »
Les maladies, tout
les
ça.
Les maladies, ouais. Tout ça. Et en fait, on a quand même intérêt à poser cette question. Pourquoi ? Parce que même si chez vous, on faisait des infarctus, on était diabétique, etc., on ne le sera pas forcément. Mais c'est totalement différent si dans les antécédents, il n'y a pas de diabète. Alors que s'il y a un diabète, vous allez suivre plutôt la glycémie. Donc vous allez orienter ce suivi. On ne peut pas tout suivre, bien évidemment. Mais c'est important de connaître son terrain génétique, de savoir les maladies, car là, encore une fois, on peut s'occuper de son alimentation en disant si je risque un diabète, je ne vais peut-être pas manger du sucre plus que d'autres.
Mais si j'ai eu une grand-mère qui a fait un AVC à 80 ans,
non.
Ça doit impacter mon quotidien ?
Attention, attention. Quand on dit les antécédents, d'abord c'est en ligne directe. Donc c'est père, mère, oncle, tante, frère et sœur.
D'accord.
Voilà. Au-delà... C'était un autre mode de vie et donc il ne faut pas en tenir compte, c'est un élément extrêmement important. Après, c'est l'âge. Quelqu'un qui fait un infarctus ou un AVC à 80 ans, c'est dramatique, mais malheureusement, c'est l'évolution naturelle. Par contre, si vous avez un père qui fait un infarctus à 45 ans, ça veut dire qu'il y avait un terrain. Alors après, est-ce qu'il fumait ou est-ce qu'il avait un terrain prédisposé ? Ça nous permet simplement d'orienter notre vie, d'orienter notre sentinelle par rapport à ce qui peut se passer.
Et à l'inverse, ce n'est pas parce que tout va bien dans la famille qu'il n'y a pas de cancer du côlon ou de cancer du sein qu'il faut s'affranchir de se faire suivre ou même d'intégrer les campagnes de dépistage.
Alors, il y a deux choses, en effet, c'est important que vous le souligniez. Il y a d'une part le fait que il faut avoir un rendez-vous médical assez régulièrement. Jusqu'à 50 ans, c'est aberrant de dire à quelqu'un « je l'ai vu, j'avais 25 ans et depuis je ne l'ai pas revu ». C'est un entretien simple, ça permet de faire un petit bilan biologique, parce que le bilan biologique, par définition, s'il y a une modification, c'est parfaitement silencieux. Ça ne vous dit pas, attention, j'ai le cholestérol, j'ai l'acide urique, j'ai le rein qui ne marche pas bien. Donc ça, c'est bien d'avoir un bilan biologique. Et puis c'est toujours bon de faire écouter son cœur, de regarder un petit peu les articulations, voir si ça craque ou pas. Tous ces éléments-là, c'est le suivi. Et puis vous avez l'autre aspect. L'autre aspect, c'est cette notion de dépistage. Le dépistage, par définition, c'est d'aller chercher chez des gens qui ont un profil plus à risque, encore une fois. Il n'est pas question de tester tout le monde. Mais en effet, c'est important d'aller chercher éventuellement un cancer colorectal avec, vous savez, ces petits examens qu'on appelle l'hémoculte et qui permettent de dépister un peu de sang dans les selles. Donc, c'est des éléments. Alors, vous connaissez toutes, et bien sûr, tout ce qui est la mammographie, les frottis, toutes ces choses qui sont importantes. Et quand on fait de la consultation, et vous le savez bien, Jimmy, on se rend compte que, eh ben, y a des femmes qui passent à travers, qui, au bout de 4-5 ans, disent « Ah oui, j'ai complètement oublié ». Donc, c'est pour ça, cette piqûre de rappel. On s'est dit « Voilà, où j'en suis, je fais mon état des lieux, voilà, j'ai besoin de faire ça, voilà mes modes de vie, et voilà ce que j'ai envie de faire ».
Docteur Ducardonnet, vous l'avez un petit peu évoqué, mais faire un bilan. Dans ce livre, on se demande, est-ce qu'on va nous parler du bon bilan qu'il faut faire pour tout le monde ? Est-ce qu'on doit tous faire, je ne sais pas, un bilan sanguin régulièrement ? Est-ce qu'il y a un âge à partir de quand il faut le faire ? Il y a des bilans cardiaques, il y a des bilans gynéco. Finalement, c'est quoi le bon bilan qu'on devrait tous passer et à quel rythme ?
Le bon bilan, c'est celui que votre médecin traitant va vous conseiller. Voilà. Je crois que c'est vraiment lui qui vous connaît, qui va poser les bonnes questions et qui va vous dire s'il y a des examens à faire. Le fait de faire un bilan, c'est en fait une révision générale, mais on n'est pas obligé de rentrer dans des examens extrêmement compliqués. Les examens extrêmement compliqués, ils viendront si, encore une fois, il y a un risque, s'il y a des symptômes, s'il y a un point d'appel. L'important, c'est de se poser avec son médecin traitant et dire « voilà, je vais bien ». Voilà mon profil, voilà mes antécédents. J'avais en effet un petit peu de problème de cholestérol il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'aujourd'hui serait légitime de faire ? Par contre, bien évidemment, si vous avez 50 ans, vous êtes un homme d'affaires hyper stressé, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, il est évident que le risque cardiovasculaire à ce niveau-là, si vous avez un cholestérol ou si vous fumez, eh bien, ça va être un élément important. Donc on ira plus loin, on proposera éventuellement un examen, on proposera éventuellement une épreuve d'effort. Encore une fois, le bilan, le bon bilan, c'est celui que vous allez partager avec votre médecin traitant.
Vous êtes cardiologue et médecin du sport. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle il faudrait justement aller consulter son cardiologue, faire un électrocardiogramme avant, par exemple, la reprise d'une activité sportive, même si on a 25 ans ou 30 ans, est-ce qu'on a besoin de faire des examens complémentaires si jamais on doit pratiquer une activité physique, qu'elle soit en compétition ou pas ?
Alors, premier élément, si vous avez des symptômes, si vous avez des palpitations, si vous sentez le cœur qui cogne, normalement, un cœur, on ne le sent pas, sauf dans une émotion forte, amoureuse. Mais autrement, on ne le sent pas. Par contre, si vous avez une douleur dans la poitrine, si vous avez un essoufflement anormal, d'habitude, vous montez les trois escaliers sans problème, maintenant, au premier étage, vous êtes essoufflé. Ça nécessite absolument une consultation parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le moteur. Ça, c'est un point important. Si tout va bien, au-delà de 45 ans pour l'homme, au-delà de 55 ans pour la femme, là, il faut commencer à faire un vrai bilan. Et puis, si vous faites une activité physique extrêmement intense ou à risque, il y a des sports ou des sports à risque comme la plongée, par exemple, à ce moment-là, il faut un avis technique d'un médecin du sport qui vous dira si, voilà, peut-être qu'à partir de 35 ans, 40 ans, une épreuve d'effort serait utile, d'abord pour avoir votre capacité, parce qu'en plus, ça peut vous guider par rapport à votre entraînement, et puis voir s'il n'y a pas en effet une anomalie.
Docteur Ducardonnet, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Alain Ducardonnet, vous êtes cardiologue, médecin du sport et du livre, vous êtes l'auteur, prenez rendez-vous avec vous, publié au Cherche Midi. Alors on a vu jusque-là quelques-unes des questions qu'il faut se poser finalement pour faire cette auto-évaluation de notre santé que vous nous proposez. Et on va prendre un exemple, admettons au hasard, hein, parce que bon, j'avoue j'ai fait le test qui est au tout début de votre livre pour savoir si j'avais un bon bilan on va dire. Bon, et sur le sport j'ai 20 sur 100, ce qui n'est pas terrible hein, je crois.
Bonne marge de progrès.
Voilà. Alors, c'est-à-dire que je ne fais pas assez du sport, je le sais depuis longtemps, mais comment vous pouvez me motiver, docteur Ducardonnet ?
Alors, je voudrais insister sur le fait que ce livre ne met absolument pas en cause la médecine avec ses médicaments. Et simplement, on doit s'autoriser, on doit faire en plus. C'est-à-dire que vous avez la médecine conventionnelle et vous avez ce que j'appelle moi la médecine des modes de vie, c'est-à-dire comment arriver à voir... Bah, dans ce qu'on fait tous les jours, ce qui est bon pour sa santé ou mauvais. Et ça, ça a été bien démontré dans bon nombre d'études. Alors une fois qu'on a dit ça, eh ben, on s'est dit en effet, activité physique, on peut faire ce test dans ce livre avec un QR code tout simplement. Si vous arrêtez à 20, ça veut dire que globalement, vous avez pour l'instant pas encore travaillé les choses simples de l'activité physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée, on dit toujours, je vais faire du sport. Et là, vous le disiez tout à l'heure, les gens vous posent « Ah non, ça, j'ai pas le temps, de toute façon, c'est hors de question et c'est pas pensable. » Non, non, c'est là où il faut bien parler d'activité physique, de lutte contre la sédentarité, car le vrai facteur de risque, c'est la sédentarité.
Mais je marche beaucoup, alors peut-être que c'est bien déjà.
Alors, vous marchez beaucoup, mais est-ce que vous marchez beaucoup à la bonne cadence? En d'autres termes, est-ce qu'on marche en flirtant avec l'essoufflement?
Non, il ne faut pas exagérer.
Car c'est à ce niveau-là que vous êtes efficace. C'est à ce niveau-là que vous aurez les bénéfices au bout de 2 semaines ou 3 semaines. Donc, ce qu'on essaie de donner, c'est des petites recettes qui montrent que dans le quotidien, on peut tout à fait faire des choses qui vont être bonnes pour votre santé.
Timmy.
Changer son mode de vie, c'est difficile, notamment lorsqu'on essaie d'arrêter de fumer. Parfois, on essaye, puis on rate, il y a des rechutes. Est-ce que vous avez des conseils, justement, pour réussir à s'y tenir et à tenir bon?
Je crois que surtout, ce qu'il faut dire, c'est que, et ce n'est pas moi qui le dis, mais chaque échec, c'est en fait le début de la réussite. Ça veut dire que vous avez quand même fait un pas, et vous avez fait ce pas qui est fabuleux, c'est de dire « j'ai envie d'arrêter ». On a beau vous dire « faut arrêter », ça ne fera rien du tout. Si vous-même, vous ne dites pas « j'ai envie d'arrêter parce qu'à la maison, ça ne sent pas bon, parce que j'ai envie d'arrêter », c'est le premier pas. Ok, vous allez peut-être chuter. Peut-être que vous n'avez pas été accompagné comme il faut. Mais ce n'est pas grave. On connaît des gens qui ont chuté une fois, deux fois, trois fois et qui, à la quatrième fois, ça a marché. Donc, il ne faut jamais, jamais dire « ce n'est pas possible ».
Je crois que vous proposez notamment de faire une espèce d'image mentale de la réussite, du but à atteindre. Donc, par exemple, se regarder dans le miroir et se voir dans quelques temps comme un non-fumeur, c'est ça? Ça peut aider à aller vers le succès?
C'est toujours cette projection. Cette projection, c'est de se dire voilà, comment je serai, et de dire ben voilà, je serai comme ça. Et de se le répéter, ça paraît tout bête, hein, de se le répéter voilà, je serai mince, je vais arrêter de fumer. Cette espèce d'objectif qu'on va se donner en permanence, c'est déjà rentrer dans la démarche. Et en particulier, si vous avez cet objectif à 5 ans, 10 ans, ben vous vous dites voilà, je vais me donner tous les moyens pour ne pas prendre de poids, pour... Cette image de vous-même, qui est l'image narcissique, on pourrait dire, cette image est un élément extrêmement important parce que c'est votre motivation de tous les jours.
Timmy, vous voyez dans quelques années musclé, sportif.
Seulement dans mes rêves, déjà, je suis tout court. Pour en venir à l'arrêt du tabac, c'est vrai que vous avez raison, de se projeter, c'est important. Et on comprend que si on arrête de fumer, dans 10 ans, on pourra peut-être éviter des maladies cardiovasculaires ou un cancer. Mais est-ce qu'on peut déjà dire aux gens que si on arrête de fumer maintenant, on peut avoir des bénéfices déjà sur le très court terme? On peut se sentir mieux très rapidement?
Absolument. Premier élément, c'est que en fait, quasiment en 2-3 semaines, le souffle sera différent. Ça, c'est un élément extrêmement rapide. Les bénéfices cardiovasculaires sont un peu à plus long terme. Mais c'est des choses qu'on ne va pas forcément sentir. Ce qui est important, c'est les petits symptômes qu'on a dans la vie quotidienne. Mmh. Et c'est vrai que
j'ai arrêté de fumer depuis 11 mois, docteur. Qu'est-ce que j'ai déjà dans... Est-ce que mon cœur est revenu à la normale? Pas
ah
encore.
Oui,
11 mois
absolument,
déjà.
Absolument. Ça, vous avez retrouvé, au bout d'un an, vous retrouvez la courbe normale d'évolution de votre cœur.
Ça, c'est bien.
De vos artères, surtout, d'ailleurs. Et ça, c'est un élément qui va être hyper motivant, parce qu'on se dit quand même, voilà, je peux revenir dans ma courbe normale. Donc, c'est tous ces petits éléments-là que l'on propose dans ce livre pour que, eh bien, on s'accroche jour après jour à faire, à réaliser. S'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si on vous dit de le faire, vous ne le ferez pas forcément. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Timmy.
Un autre élément important de sa santé, c'est l'alimentation. Et vous dites qu'on devrait faire un peu le bilan de ce qu'on mange sur une semaine. Et donc, on doit faire quoi? On doit noter tous nos repas?
Tout bêtement, c'est un carnet alimentaire. C'est-à-dire, vous marquez tout ce que vous mangez, les portions que vous prenez, ces éléments-là ensuite. Alors, vous pouvez les partager avec une diététicienne ou une nutritionniste, parce que ça, si vous allez voir une nutritionnienne et une diététicienne et nutritionniste, venez avec, parce qu'elle va commencer par vous dire de faire ça. Donc, allez-y avec. Et une fois que vous avez ces éléments-là, eh ben, elle va dire, voilà, il faut changer un petit peu. Tenez, par exemple, vous me dites, j'assaisonne toujours avec l'huile d'olive. C'est bien. Mais si vous associez l'huile de colza, vous aurez en plus des oméga-3 qui sont bonnes pour vos artères. Des petits éléments comme ça. Vous ne mangez jamais de légumes secs, les légumineuses. Et bien, les légumineuses, c'est un apport de protéines.
C'est quoi le bon régime pour être en bonne santé? Je ne parle pas de régime amaigrissant, hein, mais qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé de façon globale, on va dire?
Alors, un mot, c'est équilibré et de tout. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Il y a 3 grandes règles de bon sens qui vous plaisent bien, je crois. C'est pas de mauvais aliments, pas d'aliments parfaits. Aucun aliment indispensable.
Voilà, c'est Jean-Michel Le Cerf qui donne toujours cette règle-là et que j'ai reprise bien volontiers parce que c'est simple. Vous voyez, vraiment, on ne va pas chercher des choses compliquées. Il suffit en fait d'être équilibré et de manger ce qu'on a envie de manger, mais pas tout le temps la même chose. Si vous mangez de la pizza 4 fois par semaine, c'est vrai que là, vous n'êtes pas équilibré. Mmh. N'oubliez pas les légumes et les fruits. D'ailleurs, plutôt les légumes que les fruits. Parce
qu'il y a des pizzas aux légumes. Hein.
Mais, mais si vous mangez que les légumes et pas ce qu'il y a en dessous, c'est bien.
Vous écrivez dans votre livre « Restez assis ». Rester assis tue plus que le tabac. Vous êtes sûr de vous?
Alors, c'est un travail de François Carré. Encore une fois, dans ce livre, je n'ai rien inventé. J'ai juste fait part de ma pratique. Je cite en effet François Carré, qui est un très très bon cardiologue du sport à Rennes et qui, en fait, dans différentes études, a montré qu'au long cours, eh bien, le tabac, en fin de compte, c'était dangereux. Mais que la sédentarité dont on ne prend pas conscience, c'est quoi être sédentaire? Sédentaire, c'est en gros être assis 7 heures par jour. Et quand vous faites le calcul, ça va très vite. Hein. Vous descendez, vous prenez l'ascenseur, vous prenez votre voiture, vous asseyez devant l'ordinateur, vous mangez assis, vous retravaillez dans l'ordinateur, vous prenez votre voiture, vous affalez devant le divan, et voilà, vous avez votre journée. Et deuxième critère, c'est de rester 3 heures de suite, assis, sans bouger. Donc, il faut simplement bouger. C'est facile de se lever, de marcher, et de prendre l'escalier. Que diable!
Merci beaucoup, docteur Ducardonnet, d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui dans 100 rendez-vous. Eh bien, on a fait le contraire avec vous, on a pris rendez-vous avec nous. Prendre rendez-vous avec vous, c'est le titre de votre livre publié au Cherche Midi. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mucoviscidose. Savez-vous ce qu'est cette maladie? Quels sont les symptômes et les conséquences pour les enfants et jeunes adultes atteints? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Ah, la mucoviscidose, c'est la maladie de Grégory Lemarchal, il me semble.
C'est une maladie des poumons, ça affecte, des crachats, etc. Donc du coup, t'as du mal à respirer, etc. Enfin, du coup, par rapport à Grégory Lemarchal, je connais, quoi, mais à part ça...
Quand tu respires, en fait, t'as des problèmes respiratoires au niveau des poumons, des blocages au niveau de sa respiration, ça lui fait mal au niveau de son torse, du coup.
Je pense qu'on vit pas... trop longtemps. Je pense qu'il y a des traitements qui permettent d'aider les patients, enfin les personnes atteintes de cette maladie. Mais pour moi, c'est une trentaine d'années.
Dans un premier temps, la Ventoline. Après, quand il diagnostic, je pense qu'il donne des traitements plus forts à ce niveau-là.
Des médicaments qui sont prescrits, mais qui sont assez limités.
Enfin, je pense qu'il doit y avoir un traitement pour entre guillemets, améliorer le quotidien, mais en termes de, pour guérir ça, il n'y a pas, il me semble.
Alors Benjamin, d'abord expliquez-nous précisément, on va dire en quelques mots, ce qu'est cette maladie.
Tout simplement la plus fréquente des maladies génétiques graves en France. On compte à peu près 7500 personnes touchées par la mucoviscidose. Alors c'est une maladie qui affecte à la fois le système digestif et respiratoire, donc les poumons. Ce sont des patients qui vont par exemple avoir des douleurs abdominales, qui vont tousser, qui seront très fatigués. Et les symptômes ont tendance à s'accentuer avec l'âge. Et c'est pour ça que bien souvent, les poumons sont tellement atteints qu'il faut une greffe. Comme Kevin, il a 35 ans, il a été greffé l'an dernier. Et il nous raconte ce qui a changé pour lui au quotidien.
Plus rien n'est douloureux, la respiration va toute seule. Je ne me sens pas respirer là où avant je me sentais respirer. Déjà clairement, je fais tous mes déplacements en vélo maintenant, ce qui ne m'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Plus aucun effort physique n'est douloureux ou compliqué en fait. Là, j'ai aidé des amis à déménager, j'ai pu porter les cartons comme tout le monde, sans avoir à me reposer, sans avoir à penser à me ménager, etc. J'étais au même niveau que tout le monde, j'étais même plus en forme que certains de mes amis. Donc il y a une vraie qualité de vie qui a été retrouvée. J'ai retrouvé de l'appétit aussi et le plaisir de manger, ce que ça, j'avais jamais connu pendant les premières années de ma vie, parce que comme mon corps passer tout son temps à combattre l'infection, tout ce que je mangeais partait entre guillemets en énergie pour combattre l'infection et je grossissais pas, j'avais pas de plaisir à manger, c'était compté comme un soin. Maintenant, je mange à tous les repas, je fais même des goûters comme les enfants. Oui, j'ai pris 10 kilos, donc on peut dire que j'ai pris du poids. Après, j'étais vraiment très maigre avant. J'ai pu enfin m'acheter des vêtements d'adulte, ça c'est beau quand même. Bah, j'ai retrouvé ce plaisir-là aussi. Donc en fait, moi, c'est vraiment... je suis très, très, très content.
Voilà, et si Kevin a pu bénéficier d'une greffe, eh bien malheureusement, tous les patients n'y ont pas accès. Mais la recherche a énormément progressé ces 10 dernières années. Après les thérapies géniques, eh bien de nouveaux médicaments arrivent, comme l'explique le docteur Pierre Foucault, président de l'association Vaincre la mucoviscidose.
La révolution, c'en est une, hein. Une nouvelle combinaison de médicaments correcteurs de la protéine. Et la dernière combinaison, c'est une association de 3 correcteurs, une trithérapie, qui vient d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché en Europe. De façon assez simple, le produit du gène muté, la protéine CFTR, c'est elle qui cause les défauts cellulaires qui conduisent à l'expression digestive pulmonaire de la maladie. Donc en associant 3 correcteurs d'action différentes, on arrive à non seulement améliorer très spectaculairement la fonction respiratoire des patients, mais également leur fonction digestive. Ils se mettent à reprendre du poids et leur état général, leur énergie au quotidien est vraiment transformée et qui donne des résultats vraiment spectaculaire.
Et on attend cette trithérapie d'ici 2021. Et selon ce spécialiste, eh bien plus de 80% des malades pourraient avoir accès à ce médicament. Mais le coût de ces traitements reste élevé. L'association Vaincre la mucoviscidose a besoin d'argent. Et pour faire un don, eh bien c'est très simple. Vous allez sur le site internet virad.org. Rubrique « Je donne ».
Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle est dans le studio avec nous, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Adeline. Je vous la lis, enfin non, c'est Jimmy qui va la lire, il aime bien cet
exercice-là. Pourquoi pas, je suis un très grand lecteur.
Ouais, je sais, j'ai remarqué.
Mon mari m'a trompé il y a plusieurs années, j'ai réussi à pardonner, mais depuis, je ne lui fais plus confiance. J'essaie sans cesse de regarder avec qui il discute sur son téléphone portable. Je m'assure aussi qu'il rentre tout de suite après le travail. Il ne supporte plus mon côté intrusif. Comment faire pour que la situation s'améliore, Catherine? Il faut quand même être honnête, c'est normal d'être vigilant ou vigilante après avoir été trompé. On ne peut pas non plus lui en vouloir.
Non, bien sûr. Mais effectivement, quelle forme cela prend?
C'était il y a plusieurs années quand même.
Voilà, là,
oui, mais bon.
Bon, Jimmy, ça durerait plusieurs années.
Ouais, d'accord, très bien, on a compris.
Alors. Non, on comprend que chat échaudé craint l'eau froide. Alors, en l'occurrence, chat échaudé craint l'eau froide. Ceci étant, de toute façon, la relation à l'autre est une relation qui nécessite la non-maîtrise de l'autre. Donc, on ne peut pas être en relation avec quelqu'un en ayant l'idée qu'on puisse savoir tout ce qu'il vit, pense, fait, agit, désire. Et c'est sur la base de ces inconnus qu'il nous faut pouvoir nous lancer dans la relation, dans l'aventure de la relation. Alors évidemment, quand il y a eu des preuves d'une infidélité, une fois, on peut se dire que qui y a goûté une fois peut y regoûter X autres fois. Et ce n'est pas en surveillant qu'on annule le risque. La peur n'annule pas le danger, évidemment. Donc,
là, le fait de regarder son téléphone tout le temps, s'assurer qu'il rentre après le travail, c'est du flicage. Là.
C'est du flicage, ouais. Qui entraînera...
C'est pas bien, on est d'accord de faire ça.
Bah, c'est pas bien, pas notre point de vue moral. C'est que du coup, on met l'autre dans une telle pression que c'est le meilleur moyen pour que cela se reproduise.
Ah bon, d'accord.
C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'il y a une part d'infidélité qui est due au fait de vouloir faire la preuve de son indépendance. C'est-à-dire, malgré le fait que je suis avec quelqu'un que j'aime, que je désire, etc., pour X raisons psychologiques, je ne suis pas en train d'excuser l'infidélité, hein, surtout, ne profitez pas de mon propos, mais donc, pour des raisons psychologiques, on peut aussi penser qu'il y a en soi une volonté de s'appartenir quand on a trop le sentiment qu'on appartient à l'autre. Et la relation amoureuse est un peu de cet ordre-là. Et donc certains ont besoin, ou en tout cas tendent vers l'infidélité, comme pour faire la preuve de leur autonomie. Donc s'il y a un flicage exagéré, à un moment donné, il y a un étouffement qui ravive ce processus-là.
Mais du coup, Catherine, où fixer la limite, où elle se trouve? Puisque accepter de savoir où se trouve son mari à 21h, on peut le comprendre, mais en revanche, regarder le téléphone, est-ce que ça, c'est une limite qu'on ne doit pas franchir? Et comment est-ce qu'on fixe d'ailleurs la limite?
Je crois que le couple, dans la mesure où il s'est retrouvé dans l'impasse, il y a celui qui a été coupable de son infidélité, qui reconnaît sa culpabilité. Il n'est pas question de la balayer comme ça en disant oh, « ça va, c'était qu'une fois, et puis c'était sans sentiment ou que sais-je ». Je crois qu'il faut que chacun reconnaisse ce qui s'est joué pour celui qui a joué, et puis ce qui s'est joué pour celui qui en a souffert. Et ceci étant, c'est de se dire comment on fait pour continuer ensemble en paix. Parce qu'il n'est pas question de fliquer. Si on flique, on devient comme une maman un peu totalitaire sur son mari devenu son enfant. Autant vous dire que c'est la fuite de l'amour, du désir. Et à aucun moment, cette femme ne peut aimer un homme qui lui est complètement soumis.
Mais là, la conclusion, c'est qu'elle n'a pas digéré cette dame, non, quand même, c'est sûr. Après plusieurs années, elle en est encore là.
Non,
c'est qu'il y a quelque chose à régler. Hein,
oui, je crois que de toute façon, elle a l'idée, et là aussi, est-ce que c'est simplement cette aventure qui fait que c'est aussi fort, ou est-ce que c'est un manque de qualité relationnelle qui fait que, du coup, ce passé revient parce qu'elle manque ou d'assurance elle-même, ou narcissiquement, elle ne se sent pas suffisamment solide. Parfois, ce sont même des histoires d'enfants, c'est-à-dire, est-ce que j'étais une enfant aimée, rassurée, etc. Et si tel n'est pas le cas, eh bien cette infidélité va prendre des proportions bien supérieures à ce qui s'est réellement joué, peut-être.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils, précieux comme toujours. Alors demain, dans ce rendez-vous, on va parler des relations entre frères et sœurs. Si vous, chez vous, hein, ça se chamaille sans cesse entre le grand et le petit dernier, Jimmy rigole déjà, oh oui, ils se sont concernés. Voilà. À la maison, chez les Mohamed, apparemment, il y a
je
de la bataille.
Présent. Je serai présent.
Bien. Eh bien, on vous donnera plein de conseils, Jimmy, pour apaiser toute la fratrie. Tout de suite, place à deux qui ne sont pas frères, mais qui s'aiment quand même. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mélanie. Vous savez, dans Historiquement Vôtre, on réunit trois personnages qui n'ont rien en commun et pourtant un point.
en commun. Alors aujourd'hui, Mathieu...
Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, Stéphane? Vous portez pas le chapeau, vous?
Non, bah non.
Jamais.
Non. Je porte déjà la culotte.
Mais pas le chapeau. On parle de ces personnages de l'histoire qui étaient particulièrement chapeautés, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire à cause de leur chapeau. Giuseppe Borsalino, Charlie Chaplin et une certaine Geneviève de Fontenay qui, je crois, est amie de Stéphane.
Oui, très.
Mais pas pour longtemps.
Merci messieurs, bonne émission. Restez sur Europe 1. Hein.